Les plus grands hommes de tous les temps sont une femme et un homme, c'est-à-dire Madame Dali et Dali.
Je savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
19h, 20h.
Heureusement que j'ai des nerfs, sinon. Vous imaginez, si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz, oh, qu'elle est moche.
Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle.
Je ne sais pas, bonjour à tous. Si Michel Audiard est un héritier du surréalisme, mais nous allons fêter donc pendant ce bande à part les 100 ans du premier manifeste du surréalisme. Vous savez que c'est ce mouvement qui a révolutionné après la guerre, la première guerre mondiale qui avait ravagé l'Europe entière. Ce mouvement qui a révolutionné toutes les formes d'art avec des personnalités que vous connaissez. André Breton, Aragon, Soupeau, Jacques Vacher, Tristan Tzara et bien d'autres venus donc à Dada. Tout ça, nous allons en parler avec Carole Béfa et Marc Lambron, que je salue. Mais le surréalisme est une longue traînée qui ira jusqu'à Charles Trenet, qui a toujours reconnu que l'influence de la poésie surréaliste avait joué un grand rôle dans, par exemple, cette chanson.
Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, y a de la joie. Partout, y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle. C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, y a de la joie. Partout, y a de la joie. Le gris-boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom à la station Javel. On voit le métro qui sort de son tunnel. Grisé de soleil, de chansons et de fleurs, il court vers le bois, il court à toute vapeur. Et y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin.
Voilà, Tour Eiffel se part ou part en balade, ça rappelle d'une certaine manière ce que Breton écrivait dans ses premiers poèmes. Breton, je vais faire mon Marc Lambron du 1896-1966, le voici. En 1961, donc le pape du surréalisme, donnant une définition d'un mot qui avait été défini lui-même par Apollinaire dans une lettre, la première fois qu'il a été écrit ce mot, en 1917. Mais voici ce qu'en disait André Breton.
Cette définition n'a pas bougé dans son principe depuis le jour où elle a été formulée, c'est-à-dire en 1924, où le surréalisme était présenté comme automatisme psychique pur, par lequel on se proposait d'exprimer, par écrit ou de toute autre manière, le véritable mécanisme de la pensée. Il s'agissait d'une dictée de la pensée en dehors de tout contrôle exercée par la raison et en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale.
Voilà pour ces propos d'André Breton. On sait maintenant où va la poésie, a-t-il dit. Alors nous allons dans cette émission évidemment écouter beaucoup de musique. Trenet tout à l'heure, John Cage, Eric Satie, Francis Poulenc, Léo Ferré, Pink Floyd, des sons de Jean Cocteau et revivre cette histoire. L'on peut dire pour simplifier à l'extrême qu'il s'agit évidemment d'une compression entre la psychanalyse, la guerre terrifiante qui a ravagé toute une génération, la jeunesse qui arrive au pouvoir, ils ont tous 18-19 ans, quand par exemple Breton et Soupeau écrivent les champs magnétiques, ils ont à peine 20 ans l'un et l'autre, écriture automatique, choc avec les dadaïstes, et révolution qui s'inspire évidemment de Rimbaud, de Mallarmé, de Nerval, mais également de la peinture. Je vais être complet, Jérôme Bosch, Gustave Moreau, et beaucoup d'autres, comme par exemple Picasso. C'est pourquoi vous avez choisi mon cher Marc, John Cage, musicien américain, qui a rendu hommage à Marcel Duchamp dans un morceau que voici en 1947. Vous allez nous expliquer ça.
Thank you.
John Cage, donc, petit extrait que nous allons réécouter. Alors, pourquoi ce choix, Marc? D'abord, bonjour.
Bonjour. Bah, d'abord, nous allons faire une émission sur un paradoxe. Le paradoxe, c'est que André Breton n'aimait pas la musique. Et au fond, il n'y a pas de musiciens dans le groupe surréaliste. Mais en revanche, là, évidemment, le surréalisme a inspiré beaucoup de musiciens. Bon, là, c'est donc musique pour Marcel Duchamp de John Cage, 1947. Alors, Duchamp, il traverse, parce qu'il est là avant. Dès 1913, il y a à New York cette grande exposition qu'on appelle l'Armory Show, où il montre son nu descendant un escalier, et on considère que c'est l'acte de naissance de la peinture moderne. L'Armory Show, c'était une ancienne caserne de pompiers qui avait servi qui avait accueilli cette exposition. Alors, Duchamp va être un compagnon de route, il vient de Dada, il traverse le surréalisme, il est un peu le fondé de pouvoir américain des surréalistes, et avec une certaine pérennité, vous trouverez sur YouTube un film assez émouvant, où on le voit dans les années 60, dans l'atelier de Man Ray, rue Férou, où
très beau.
Il joue aux échecs avec Man Ray sur cet échiquier surréaliste précisément qu'avait imaginé Man Ray. Alors là, en 1947, c'est John Cage, il a 35 ans. Ce que vous avez entendu, c'est les prémices du piano préparé, donc il va utiliser beaucoup ensuite. C'est-à-dire, et alors, le son, ça évoque plutôt une sorte de percussion asiatique, de gamelan, ce qui nous fait songer d'ailleurs à un autre compagnon de route du surréalisme, qui est Antonin Artaud, qui va aller trouver à Bali les racines de son théâtre de la cruauté, qui va exprimer dans un livre le théâtre et son double. Et cette musique pour Marcel Duchamp, vous ne devinerez pas dans quel film elle a été utilisée. Eh bien, on la retrouve dans un film de Martin Scorsese, qui est Shutter Island.
Francis Poulenc, Pablo Picasso, extrait de la série Le Travail du Peintre sur des poèmes d'Éluard. Nous sommes en 1956. Vous voyez donc que ce surréalisme, qui naît juste après la guerre avec notamment Les Champs Magnétiques, écrits par Breton et Soupeau, va continuer avec de multiples exclusions, une collusion avec les communistes. Bref, voici ce Pablo Picasso de Francis Poulenc, chanté par le baryton Marc Boucher. C'est Carole qui va vous en parler. Le baryton que vous entendez donc s'appelle Marc Boucher. Carole, bonjour. Pourquoi ce choix?
Parce que difficile de parler de surréalisme en musique sans parler de Poulenc. On l'a déjà dit, les rapports du surréalisme avec la musique sont un peu compliqués parce que il n'est absolument pas question de musique dans le manifeste de 1924 dont on célèbre les 100 ans, ni dans celui de 1929. Un certain nombre de poètes surréalistes n'avaient que de liens assez ténus avec des musiciens. En revanche, s'agissant de Poulenc, on a quand même affaire à quelqu'un qui, à côté de Cocteau, évidemment honni des surréalistes, à côté de d'Apollinaire, qui vient avant le mouvement, de Louise de Villemorin, et d'autres encore, met en musique Éluard, qui rencontre à la librairie d'Ariane Monnier, Aragon, Desnos, Max Jacob, et puis même, en dehors des frontières francophones, Lorca. Et ici, on a un extrait donc de la série Le Travail du Peintre sur des poèmes de Paul Éluard. Les deux hommes s'appréciaient énormément. Alors, on peut pas dire que Poulenc était quelqu'un qui partageait leurs options esthétiques, tout en tout cas, et certainement pas leurs options politiques. C'était un grand bourgeois. plutôt marqué à droite.
Ron Poulenc.
Et oui, c'est la famille Ron Poulenc, évidemment, ce qui a fait qu'il a pu, pendant un certain nombre d'années, ne pas se préoccuper du tout de questions d'argent, avant que 1929 n'en vienne à écorner un peu la fortune familiale. On a ici tout ce qui fait l'art de Poulenc, c'est-à-dire une assise tonale très marquée. Encore une fois, si Poulenc est proche des surréalistes, ça ne veut pas dire qu'il veuille être un subversif de la musique, c'est tout le contraire d'un subversif, mais c'est quelqu'un qui a su être sensible aux moindres aspérités du discours littéraire pour en donner des équivalents musicaux via certaines fêlures dont il est, je pense, l'artisan le plus efficace.
Il y a une chose qu'on peut dire, parce que le morceau s'intitule Pablo Picasso, et si Dali et d'autres, hein, Max Ernst, Tanguy, ont été membres des peintres, Picasso n'a jamais été, ne s'est jamais asservi au groupe surréaliste, mais c'est aussi un compagnon de route, il est si immense, si tentaculaire, que finalement Breton ne dédaignait pas de s'annexer ou d'essayer de s'annexer Picasso. Et il y a un Picasso vers 36-37, quand il est à Boisgeloup, où il y a des peintures qu'on a pu dire surréalistes, enfin plus qu'à d'autres époques de son parcours.
Voilà, on parle d'attentat au bon sens pour expliquer évidemment cette méthode surréaliste qui est celle de l'écriture automatique dans les champs magnétiques. Breton a toujours dit qu'il remerciait Philippe Soupeau qui lui avait interdit formellement de réécrire la moindre ligne. Tu m'as blessé avec ta cravache équatoriale, beauté à la robe de feu, etc. Vous trouverez donc ce livre édité chez Gallimard, qui est un livre fondamental qui a donné naissance d'une certaine manière au surréalisme. Voici Eric Satie, car nous sommes au départ de ce mouvement qui a un peu révolutionné les arts dans le monde entier, dans tous les domaines, vous allez voir au cours de cette émission, puisqu'il y a eu le fameux ballet Parade, avec des décors de Picasso, Diaghilev et évidemment Jean Cocteau, qui est à la fois détesté mais qui est présent. C'est Eric Satie, Petite fille américaine. C'est un extrait donc par le Royal Philharmonic Orchestra. Voilà, sans faire l'historien, n'oublions pas qu'il s'agit de très jeunes gens qui ont à peine 20 ans, qui vont fonder le surréalisme. Et certains d'entre eux sont partis à la guerre, sont revenus, comme Aragon par exemple et Breton. Mais ils sont revenus évidemment bouleversés après avoir vu ces millions de morts, d'autant plus que l'un et l'autre s'occupaient des questions de médecine. Voici un son de Jean Cocteau qui au fond essaye de définir cette génération qui a un peu tout changé.
Ces hommes représentaient pour moi et représentent encore ce qu'il y a de mieux. Le surréalisme et ce qui précédait le surréalisme était la seule chose valable. Ils étaient mes amis parce qu'ils s'occupaient des mêmes choses que moi, qu'ils défendaient les mêmes valeurs que moi.
Voilà pour ces mots.
Oui, enfin, si je peux intervenir, les surréalistes, en tout cas dans les années 20 et 30, honnissaient Cocteau, qui tenait pour un copieur.
Un
et il y a d'ailleurs une très mauvaise blague. Ils ont téléphoné un jour à la mère de Jean Cocteau pour lui annoncer la mort de son fils. Ça allait jusque-là. Alors, après la guerre, il y a eu des liens, mais particuliers, jamais avec Breton, qui est toujours resté sur sa proscription, j'allais dire sur sa fatwa. En revanche, dans les années 50, Cocteau a un très bon rapport avec Aragon, par exemple. une amitié.
Nous allons écouter maintenant, gagner les années 60, le Pink Floyd. Je rappelle que dans les albums les plus vendus du monde, après Thriller, eh bien, il y a le Dark Side of the Moon de Pink Floyd avec un album d'AC/DC. Pink Floyd, ça c'est un extrait du titre même de l'album, A Saucer Full of Secrets, qui date de 1968, car évidemment ces musiciens anglais considèrent aussi que leur psychédélisme est né, ou en tout cas a été influencé par la révolution esthétique du surréalisme. Les gens qui nous écoutent sur Radio Classique doivent se dire Beffa, Durand et Lambron et tout à l'heure Josiane sont complètement timbrés. Nous aimons la musique qui ressemble à une musique purement mélodique. Mais ce serait passer à côté des plus grandes révolutions qui ont eu lieu justement dans les générations d'après-guerre, vouloir tout changer. D'ailleurs, c'était le slogan de Rimbaud, changer la vie. Eh bien, ça a été le cas de la génération justement du rock et des Pink Floyd qui sont arrivés juste après la Seconde Guerre mondiale et qui ont eu cette envie, justement, de modifier le rock basique à base de blues pour inventer une musique qui ressemble à celle que vous diffusez, Marc.
Oui, vous avez parlé de psychédélisme. Alors, ça concerne en effet la psyché. Et ce morceau, à mon avis, emblématise assez bien une dimension du surréalisme qui est l'onirisme. Vous savez que et Breton et Dali, à des époques différentes, ont visité Sigmund Freud. Ça ne s'est pas très bien passé. Que l'écriture automatique, elle se prodigue aussi au moment de ce qu'on appelle les sommeils. Et notamment Robert Desnos, c'était un très bon médium qui mis en état de catalepsie ou d'hypnose, psalmodiait des vers. Et avec le Pink Floyd, nous avons précisément cette dimension du son, du voyage en même temps, du trip, comme on dit en anglais, avec une référence signalétique, y compris dans les pochettes, à l'incongru d'un peintre surréaliste comme Magritte, et le fantastique Edgar Poe, même Lovecraft, qui aimait les surréalistes. Alors là, nous sommes, c'est le deuxième album studio, en effet, de Pink Floyd, juin 68, le dernier sous l'égide du génie fou Syd Barrett, Source of Full of Secrets, une soucoupe de secrets. Vous avez trois mouvements de 12 minutes, ce qui veut dire qu'on sort à ce moment-là de l'esthétique ou du format.
Alors, on est complètement sorti de la petite chanson.
Du 45
pop,
tours, oui. On sort du 45 tours. Et vous avez entendu les instruments. Il y a de l'orgue, il y a du gong, il y a un piano assez free jazz, il y a une guitare jouée en glissandi, il y a une batterie très orientalisante. C'est ce qu'on va appeler le rock progressif, mais qui ouvre un nouveau continent, qui doit beaucoup quelque chose à cette esthétique du songe, venue pour partie, pour une bonne partie, du surréalisme.
J'aurais une question pour vous deux tout à l'heure, pour terminer cette première partie. Voici les sept péchés capitaux. C'est un ballet chanté et composé par Kurt Weill et Bertolt Brecht en 1933. Carole va s'expliquer.
Nimmt sich unsere Anna auch zusammen. Michigan ist allen was für Anfang. Sie war ja immer etwas eigen und bequem. Michigan ist allen was für Anfang. Wenn man die nicht aus dem Bett heraus war. Michigan ist allen was für Anfang. Dann stand da
das faule Stück nicht auf am Morgen. Bis dann ist alles der Anfang.
Percevez l'étendue des influences, puisque nous avons entendu successivement Charles Trenet, Breton, John Cage, Poulenc, Eric Satie, Jean Cocteau de Pink Floyd, maintenant Bertolt Brecht et Kurt Weill. Tout à l'heure, ce sera pour terminer cette première partie, Léo Ferré avec Aragon, qui a accompagné les surréalistes. Avant de rejoindre le Parti communiste, ce sera une des grandes scissions fondamentales entre ces jeunes gens donc de l'après-guerre. Que viennent faire Kurt Weill et Bertolt Brecht dans cette aventure?
Oui, dans cette galère, hein. J'ai l'impression que vous alliez dire. Marc disait très justement qu'il y avait une part de songe, de voyage et de trip dans l'extrait des Pink Floyd qu'il a pris. C'est exactement la même chose qu'on pourrait dire ici. Alors évidemment, Brecht et Kurt Weill, on les associe pas directement au surréalisme. C'est un compagnonnage de route un peu éloigné. Mm-hmm. Mais certaines des thématiques de cet opéra, en fait un ballet chanté, sont assez proches de tout cela. Alors, il faut bien savoir aussi que Kurt Weill, c'est un caméléon. C'est quelqu'un qui, évidemment, se fait connaître en 1927 avec une œuvre qui lui assurera un certain nombre de revenus parce qu'elle a été énormément jouée, évidemment, qui s'inspire de la plupart des musiques populaires de son temps, mais qui sont revisitées par son talent, l'opéra de Katsu. Et puis, à partir des Sept Péchés Capitaux, qui est encore autre chose, il va faire aux États-Unis, où il est obligé de se réfugier, quittant l'Allemagne nazie comme juif, il va faire encore tout à fait autre chose en essayant de mêler son style, sa patte personnelle, au musical américain.
L'importance de la psyché, l'importance de l'écriture automatique, l'importance de déformer les objets en fonction du hasard. Mais Aragon dira bien vite, lui qui est peut-être l'un des plus grands stylistes du XXe siècle, si vous écrivez suivant une méthode surréaliste de tristes imbécilités, eh bien ça restera de tristes imbécilités. Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Extrait de l'album Les chansons d'Aragon, 1961, et la voix magnifique d'un personnage anarchiste vivant en Italie, un homme tout à fait particulier dans la chanson française qui fait partie des grands, Léo Ferré.
Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent. C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était telle ou non drôle, moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes,
comme les fleurs de la luzerne fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent. Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce ainsi que les hommes vivent?
Voilà, vous reconnaîtrez évidemment non seulement la voix inimitable de Léo Ferré, ce poème d'Aragon qui a été donc mis en musique avec toujours ce goût pour des orchestrations qui ne sont pas des orchestrations, disons, de l'époque, simplement pop, mais élargies aux cordes, élargies à une certaine envie de diriger des orchestres. Vous vouliez dire, Marc, un mot sur Aragon, qui est évidemment un des compagnons de route de Breton, mais qui va immédiatement prendre la tangente communiste, ce qui va apporter une scission fondamentale entre eux deux.
Bah, il y a plusieurs choses. D'abord, en effet, les poèmes d'Aragon qui ont été mis en musique, ce sont essentiellement des poèmes d'après 1940. Donc c'est le poète de la
Diane, serais-je sans toi,
de la Diane française, voilà. Mais je ne crois pas qu'on ait mis en musique des poèmes surréalistes. Il y a parfois co-signé avec Suppot ou avec Breton, non plus en effet que sa période communiste. Oural Oural, par exemple. Poème célèbre, Feu sur les ours savants de la social-démocratie, ça aurait pu donner une magnifique cantate soviétique. Mais enfin, on serait sorti du surréalisme. Donc, ce sont des poèmes magnifiques, mais ce sont des poèmes d'après, en quelque sorte.
Question, Carole, pourquoi une génération, tout d'un coup, a décidé ou décide, c'est souvent le cas après une guerre, de tout vouloir changer?
Oui.
Contre, parce que je parlais tout à l'heure de cette formule, c'est un attentat, ça se veut être un attentat au bon sens.
Alors, après les guerres, les révolutions esthétiques, elles peuvent prendre des formes très différentes. Vous avez raison, après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, elles vont prendre une forme de rupture assez radicale. Dans le cas de la Deuxième, s'agissant de la musique, ça va creuser un fossé assez net entre un certain nombre d'artistes d'avant-garde.
Ils ont écrit le fameux cadavre d'Anatole France.
Alors ça, c'est après la Première, bien sûr.
Ouais.
France meurt en
1921. Qui était le grand écrivain français de l'époque que les surréalistes vont flinguer.
Tout à fait. Alors après le désastre de Sedan en 1870, c'est plutôt l'inverse qui se produit. L'idée, c'est plutôt que faire pour être à l'égal de l'Allemagne en termes culturels. Mm-hmm. Et c'est plutôt une restauration assez conservatrice que vont essayer un certain nombre de compositeurs qui s'inspirent de Wagner pour essayer paradoxalement de trouver leur racine française.
Ça c'est en musique, mais dans le surréalisme, il conchit, parce que c'est un verbe qu'ils emploient, aussi bien l'Allemagne, l'armée allemande que l'armée française. Non, juste une chose, c'est qu'il y a des prémices sans doute avec Max Jacob ou Apollinaire avant 1914, et Guillaume Durand a fait tout à l'heure une brève allusion au fait que pendant la guerre, Breton et Aragon sont internes en médecine au Val-de-Grâce, mais qui soignent-ils les traumatisés psychiques? Et dans le berceau du surréalisme, il y a aussi la déraison. Il y a aussi l'expérience très concrète et très traumatisante de ces hommes qui ont perdu le sens, avec ces deux médecins, ces deux sémiologues, en quelque sorte, des signes pathologiques qui vont y voir une expansion du champ de conscience possible.
Salvador Dali, avant la deuxième partie de cette émission, et Catherine Deneuve, actrice de Buñuel, le surréalisme est le sujet de cette émission.
Secret de dirigeant, la saison 3, avec Céline Cajoulis.
Sa longue silhouette, ses cheveux courts et ses grands yeux bleus nous sont devenus familiers. À chaque attentat, il est revenu inlassablement donner des chiffres, des détails, des explications factuelles, mais sous le discours, on sentait bien la sensibilité de l'homme. François Molins, l'ancien procureur de Paris, est cette semaine l'invité de Secret de dirigeant.
Un podcast à écouter sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles.
Plongé au cœur de l'hiver avec le célèbre shérif Walt Longmire. Dans le cœur de l'hiver de Craig Johnson, Walt Longmire n'est pas là pour plaisanter. Sa fille Cady vient d'être kidnappée par un cartel mexicain. Elle est en danger. S'ensuit une aventure à 200 à l'heure. Armé de sa rage et de son fidèle Colt 45, il n'a qu'une mission, la sauver à tout prix. Le cœur de l'hiver, le 14e roman de la série best-seller de Craig Johnson, maintenant en poche, aux éditions Point.
Bonjour, c'est Avru Thierry. Je vous invite à me rejoindre à Aix-en-Provence pour son festival d'art lyrique. Au programme, deux opéras fabuleux. La Clémence de Titus de Mozart avec la merveilleuse Karine Dehé et Madame Butterfly de Puccini. L'occasion aussi de découvrir ensemble les joyaux de cette région de toute beauté.
Le Festival Lyrique d'Aix-en-Provence avec Evrou Djiri du 20 au 23 juillet. Un séjour radio classique avec Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com.
Bonjour, c'est Franck Ferrand. Comme moi, vous aimez Chopin, Schumann, Liszt, qui ont su mettre en musique les passions de l'âme et du cœur pour en faire des chefs-d'œuvre. Eh bien, nous l'entendrons s'exprimer, ce génie des grands romantiques, Sal Gavo, en compagnie de l'éblouissante révélation du piano, Nour Ayadi.
Les grands romantiques, avec Franck Ferrand et la pianiste Nour Ayadi. Un concert radio classique, jeudi 16 mai, Sal Gavo à Paris. Réservation au 01 49 53 05 07 ou sur salgavo.com.
Pour son 50e anniversaire, le Concours international de piano de Cleveland retrouve ses racines parisiennes, Sal Corto. Des pianistes d'excellence venus du monde entier seront en compétition lors du premier tour du concours. Chacun des 32 candidats donnera un récital d'une demi-heure. En partenariat avec la Salle Corto à Paris, ces épreuves ouvertes au public et gratuites auront lieu du 1er au 5 avril. Programme détaillé du Concours international de piano de Cleveland sur pianocleveland.com.
Partez à la rencontre des professionnels des métiers d'art et du patrimoine vivant à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. Céramistes, bijoutiers, maroquiniers, ébénistes, ferronniers vous proposeront partout en France plus de 8000 événements sous le signe de la transmission. Portes ouvertes, manifestations, démonstrations, ateliers d'initiation, activités jeunes publics, venez découvrir ces métiers passionnants du 2 au 7 avril. Toute la programmation sur journeedesmetiersd'art.fr.
Christophe André nous parle de son nouveau livre, S'estimer et s'oublier, publié chez Odile Jacob.
L'estime de soi, c'est important. Porter sur soi un regard bienveillant et exigeant, connaître ses qualités, accepter ses défauts, traverser intelligemment bonheur et adversité. Construire et entretenir l'estime de soi, c'est essentiel. Puis, une fois ce travail accompli, il faut s'oublier, cesser de penser à soi et se tourner vers les autres, le monde, la vie.
S'estimer et s'oublier. Un livre de chevet à lire et à relire, c'est chez Odile Jacob.
Dans ma peinture, je dirais que mon œuvre picturale est une grande catastrophe. C'est pour ça que ça paraît paradoxal que d'un côté je pensais que je suis le plus grand génie et de l'autre côté que ma peinture est très mauvaise.
19h, 20h.
Je suis pas une vraie actrice. Si, c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Non, je le dis en riant, mais c'est vrai.
Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Tu m'as blessé avec ta cravache équatoriale, beauté à la robe de feu, c'est une des phrases justement des Champs magnétiques. Eh bien la version qu'en a donnée Charles Trenet en 1957, c'est tout simplement Le Jardin extraordinaire.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en disant « Thank you very much, Monsieur Trenet. » On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver, dans cette grande ville maussade, où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard dans ce jardin extraordinaire, loin des noirs buildings et des passages cloutés. y avait un bal.
Voilà Trenet qui a toujours expliqué évidemment que sa musique était inspirée non seulement du jazz à un moment, mais très souvent des poètes de cette époque pour ce jardin extraordinaire donc qui date de 1957. Nous allons partir dans un registre tout à fait différent avec La voiture de Salvador Dali. C'est un album qui s'appelle Trout Mask Replica de 1967 avec un groupe un peu mythique comme les aime Marc. Voici Captain Beefheart. Rappelez-nous ce que fut Captain Beefheart.
D'abord, je vais vous rappeler cette maxime d'André Breton, que la nuit tombe sur l'orchestre. Il ne voulait pas de la musique, mais là, peut-être que la nuit tombe sur l'orchestre, en effet. Bon, Captain Beefheart, qui était né en 1941, qui est mort en 2010, qui s'appelait Don Van Vliet, c'est au départ un bluesman, mais qui va introduire des éléments dada et surréalistes dans le blues, qui donne quand même un mélange, une assez étrange compote. Et il enregistre avec Frank Zappa cet album dont vous avez parlé, Trout Mask Replica. Il y a 28 chansons qui sont très brèves, concassées, c'est un double album, hein, déconstruites, avec des influences qui viennent du free jazz, mais il cherche un état limite du son qui est pas loin d'une psychose expérimentale, comme les aimait précisément le surréalisme. Alors, néanmoins, il y a un référent, c'est parce que le morceau s'intitule La voiture de Dali. Et à l'exposition internationale surréaliste de 1938 à Paris, Dali avait exposé un taxi pluvieux. C'était une Cadillac, il avait installé dans le plafonnier un dispositif d'arrosage, donc il pleuvait à l'intérieur de la voiture, où il avait disposé des laitues et des escargots de Bourgogne vivants qui circulaient. Donc voilà la référence que Captain Beefheart, en 1969, reprend dans cette musique déconstruite ou concassée.
Salvador Dali est certainement le personnage qui est devenu, donc, appartenant au mouvement surréaliste, car il n'est pas du tout simplement un mouvement français le plus célèbre dans le monde entier, puisqu'il a influencé des gens comme Koons et beaucoup d'autres. Le surréalisme, d'ailleurs, a donné naissance à toute la nouvelle peinture américaine. On parlait d'écriture automatique, mais les gestes des peintres américains des années 50, à commencer par ceux de Jackson Pollock, sont très, évidemment, marqués par le surréalisme. Voici Salvador Dali.
En France, c'est intéressant parce qu'il part du surréalisme et il va faire tout autre chose, un peu comme Pollock. Hein.
Salvador Dali, voici ce qu'il disait de Lénine qu'on retrouve sur le fameux piano, le tableau.
Lénine était vraiment, à mon point de vue, un vrai surréaliste, dans le sens, pas du tout intellectuel, mais dans le sens biologique. C'est-à-dire que Lénine, il était, si vous l'habillez avec des dentelles, comme une jeune fille, et vous le faites faire un portrait par Velázquez, il serait tout à fait dans la série de ces crétins que Velázquez a immortalisés et qui faisaient la joie des rois espagnols.
Voilà ces propos de Salvador Dali, personnage inouï qui vivait à Paris souvent au Meurice pendant des homards, par la fenêtre, se promenant aux États-Unis, à vida dollar, parce qu'il y a eu une véritable bagarre entre les surréalistes de l'origine et la carrière de Dali qui est devenue celle d'une superstar mondiale. Voici un autre personnage étonnant, on parlait de Captain Beefheart tout à l'heure, musicien américain Frank Zappa, malheureusement enlevé trop tôt par un cancer, Watermelon in Easter. Il a absolument tout fait dans le domaine de la musique, c'est peut-être l'un des plus importants, mais il a toujours essayé d'aller vers les marges. C'est le Garage de Joe et ça date de 1979. Guitar solo. Voilà, on a un peu oublié à quel point Frank Zappa fut un gigantesque guitariste, on dirait un peu Jeff Beck par moment. Mais il a vraiment expérimenté toutes les formes de musique possibles et imaginables, de la musique contemporaine, du blues, du rock, et les influences qui viennent aussi d'Europe orientale, bref. Ce titre date de 1979. Voici une curiosité choisie comme toutes les musiques que nous avons écoutées depuis le début, puisqu'il s'agit de célébrer les 100 ans du premier manifeste du surréalisme. Notre ami Carole Beffa a trouvé un opéra qui s'appelle Les Traçouets de Bohuslav Martinu. Ça date de 1900... Martinu, oui, pardonnez-moi. C'est une découverte. Donc, en 1997, ça s'appelle, alors j'espère que je ne vais pas me tromper, me gourer, Oh.
C'est à peu près ça.
Ak mi drup tik sidla, prsička mi scivka slud, u sem ja bilo spančist, vaše smrt. Ak mi nadherni boži tvorove, nic vic než moje svjesina. Nachytám na tyhle ty kejkle, já vím, co jsou to živočiši a na vlast cestě rozeznám, co doopravdy je a co jen se zdá. Ztraťte se pryč, jste klam a přízrak, všecko je jen zvěř, jak na vás vystřelím, co je z vás, nežli maso na pekáč. Jako ženské posteli vedle nás, co z ničeho nic nás jako had ominou, jak zás, jako záš, jako záznak. Ztraťte se pryč, na vaše schody je škoda ztrácet i náboj. Já vím, že tahle ta kráska nějak souvisí s realitou dní. Ohoho, ohoho, jsem člověk reálný.
Carole Bohuslav Martinu, 1997, je ne redonnerai pas le titre, mais l'opéra s'appelle Les Trois Souhaits.
Les Trois Souhaits ou Les Vicissitudes de la Vie, c'est d'après Georges Ribon de Seigne. En fait, qui était Martinu? C'était un compositeur tchèque qui est venu en France en 1923, qui a connu à peu près toute
cette avant-garde
musicale de l'époque. Et du côté des musiciens, il était proche... du groupe des Six, il était proche de Stravinsky, il était proche de Roussel. Il a effectivement, avec un catalogue absolument pléthorique, essayé, à une période de sa vie, de mettre en œuvre un certain nombre des principes du surréalisme. Alors, c'est compliqué parce que le surréalisme, on peut dire, et cherche à appliquer en art les méthodes thérapeutiques du docteur Freud. Simplement, quand il s'agit de musique, c'est plus compliqué, parce que c'est un art évidemment abstrait, peu mimétique, beaucoup plus compliqué que s'il s'agit d'une analyse de l'image ou du verbe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois souhaits de Martinou, c'est d'abord un opéra-film, qui devient un opéra. C'est pas une œuvre qui est vraiment entre au répertoire, mais c'est dommage parce que c'est effectivement une œuvre très déjantée, très étonnante et qui montre assez la multiplicité des talents de Martinou, qui était capable de pasticher en bon caméléon à peu près tous les styles musicaux.
Tristan Tzara, donc Dada. Alors il faut savoir que le mouvement Dada qui vient de Suisse, ils sont rentrés aussi en collusion avec les surréalistes, car à un moment, Tzara a trouvé que les surréalistes version breton devenaient, disons, trop religieux, trop sérieux. Ça commençait à ressembler, lui qui voulait que ça ressemble à une sorte de gigantesque chamboulement général, que ça ressemblait un peu trop à une secte organisée. Voici comment est né le mouvement Dada, par celui qui l'a, au fond, d'une certaine manière, fondé.
Ce qui était important, c'était le fait que nous cherchions le titre d'une revue qui ne signifie rien. Parce que nous ne voulions pas nous engager dans quelque dogmatisme ou dans quelque idéologie que ce soit. Le fait est que nous étions tous très jeunes, que nous souffrions beaucoup de la guerre, du fait d'être enfermés là, et nous rendions responsables la logique, les lois de la bourgeoisie, les lois en général, l'art ancien, l'art avec un A majuscule.
Les règles de l'art aussi.
Et tout cela de la guerre et de notre situation assez malheureuse, il faut le dire, n'est-ce pas ? Surtout quand on avait l'âge que nous avions, à peine 20 ans.
Voilà Tristan Tzara qui, avec des mots simples, explique bien la révolution culturelle qui a porté cette génération et qu'on retrouve effectivement dans celle des années 60, après la Deuxième Guerre mondiale, surtout à l'ouest des États-Unis avec le Jefferson Airplane. L'album s'appelle Le Lapin Blanc et donc, c'est le Surrealistic Pillow, pardonnez-moi, ça s'appelle donc L'Oreiller Surréaliste et le titre s'appelle Le Lapin Blanc.
One pill makes you larger, and one pill makes you small. And the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell them a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small.
Voilà, on l'a un petit peu oublié aujourd'hui, mais Jefferson Airplane avec les Doors faisait la bataille avec les groupes anglais qui venaient donc de Californie. Nous sommes en 1967, Marc.
Oui, c'est une ramification assez intéressante du surréalisme. Le titre de l'album, hein, Oreiller surréaliste en 1967. La chanteuse Grace Slick, qui était une muse hippie, rejoint le groupe à ce moment-là, et c'est elle qui a composé cette chanson. Le Lapin Blanc, c'est une référence express à Lewis Carroll. Le White Rabbit. Et d'ailleurs, dans l'anthologie de l'humour noir d'André Breton, il se réclame de Lewis Carroll. Il cite un chapitre qui est le Quadrille des homards. Et en même temps, Grace Slick avait entendu le boléro de Ravel. C'est un rythme de boléro. Donc le mélange est assez curieux parce que vous avez le Lewis Carroll, vous avez le surréalisme, vous avez Ravel. Et en même temps, le surréalisme, en quelque sorte, s'accomplit en Californie à ce moment-là à travers les psychotropes. C'est-à-dire, c'est clairement une chanson qui est inspirée par le LSD qui va venir en relais, je cite les paroles, une pilule te fait devenir grand et une pilule te rétrécit. C'est les changements de dimension dans le conte de Lewis Carroll. Tu viens d'avaler un champignon et ton esprit se ralentit. Donc là, c'est l'esprit de l'amour, c'est 1967. Et c'est aussi l'avènement de San Francisco, de la côte ouest, comme vous l'avez dit, comme un des centres de la révolution psychique des années 60.
Composé par Carole Beffa, donc hommage à Darius Milhaud, avec Grégoire Girard au piano et Gérard Birchner violon. Le voyage à Rio pour cet hommage à Darius Milhaud. Carole, donc, il n'y a rien de venu plus banal que de dire c'est surréaliste à propos de tout et n'importe quoi. Eh bien, nous avons vécu une heure pour rendre hommage à ce centenaire du surréalisme 1924, premier manifeste. Inspiration qui fut aussi la vôtre dans ce titre.
Oui, César Birchner au violon, Grégoire Girard au piano, qui sont donc l'un brésilien et l'autre français, et qui m'avaient demandé pour leur album une pièce qui puisse voyager entre les deux pays et qui soit un peu un témoin de cette époque et des différents courants qui ont pu la composer, donc pas simplement le néoclassicisme, mais effectivement d'une certaine façon aussi musicale, dadaïsme et surréalisme. Et j'ai voulu, avec des harmonies un peu acides, des rencontres de notes assez épicées, un ostinato un peu entêtant, imaginer ce que pourrait être aujourd'hui une musique surréaliste.
Marc, quelle est l'œuvre surréaliste qui vous a le plus marqué? Alors, est-ce que c'est du domaine du cinéma, Le Chien Andalou? Est-ce que c'est du domaine, justement, on parlait des champs magnétiques? Ces deux gamins de 18 ans qui ne dorment pas pendant une semaine et qui écrivent ce texte qui a traversé, évidemment, toutes les années et qui est un peu le manifeste des manifestes, ou plutôt le manifeste avant, donc, les manifestes. Est-ce que c'est aussi la peinture de Magritte, celle de Dali? Enfin, qu'est-ce qui vous touche, le plus?
Bah, c'est beaucoup de choses, mais je retiendrai que deux textes. C'est Le Paysan de Paris de Dragon.
Voilà, Josiane va en parler dans un instant.
Ah, voilà, et le dernier chapitre, Le sentiment de la nature au but de Chaumont, qui est absolument c'est une déflagration inouïe aujourd'hui encore. Et puis alors, je dirais le Nadja d'André Breton, parce que là c'est le hasard objectif et c'est quand même l'idée de l'amour fou qui est aussi très présente dans le surréalisme. D'ailleurs c'est le titre d'un... C'est curieux le surréalisme, parce que d'un côté, alors Breton, fils de gendarme, et Aragon, fils adultérin d'un préfet de police, donc peut-être clé de leur révolte. Et en même temps, n'oublions pas que Breton disait que l'acte élémentaire surréaliste le plus simple, ça consistait à descendre dans la rue et à tirer au hasard avec un pistolet. Donc vous avez aussi une sorte d'anarchisme...
La révolte
aléatoire, et en tout cas proclamatoire, parce que c'était souvent du verbe plutôt que de l'acte, et parfois tant mieux.
Charles Trenet, Captain Biffard, Salvador Dali, Frank Zappa. Tout à l'heure, nous parlions de Bohuslav Martinu, Jefferson Airplane, Tristan Tzara, Grégoire Girard et Gérard Bichner. Donc, hommage à Darius Milhaud, composé par Carole Beffa, notre camarade. De l'en retrouver justement Le Paysan de Paris, Louis Aragon, Josiane Savigno et Jean Ferrat.
19h-20h.
L'enseignement majeur, c'est l'existence même. Le poste. Que dans le monde moderne, une telle vocation ait existé.
Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme.
Voilà l'adaptation de Jean Ferrat, donc, de ce texte d'Aragon, Le fou d'Elsa. Bonjour, ma chère Josiane.
Bonjour, Guillaume.
Nous allons parler justement en détail de ce livre qu'évoquait Marc Lambron, Le paysan de Paris, Louis Aragon, publié en 1926, et dédié au peintre surréaliste André Masson, qui a joué un rôle considérable dans la génération des peintres américains, notamment Rothko, qui est exposé jusqu'au 2 avril à la Fondation Vuitton.
Et bien justement, pourquoi je l'ai choisi, comme vous l'avez dit, parce que son écriture est strictement contemporaine du manifeste du surréalisme d'André Breton, dont on célèbre le centenaire, que ça a été publié, des morceaux ont été publiés en 1924 dans la revue européenne de Philippe Soupeau et en 1925 dans la revue surréaliste. Et c'est la période donc purement surréaliste d'Aragon, puisqu'il ne quitte le groupe qu'en 1931, vous l'avez un peu parlé tout à l'heure. Et je l'ai choisi aussi malgré tout parce qu'Aragon déjà se déclare un écrivain libre, dit-il, par rapport au groupe. Et puis aussi parce que ce texte que j'aime beaucoup a été très mal reçu par la critique et très mal reçu par le groupe surréaliste. Alors ce texte, c'est plusieurs textes, préface à une mythologie moderne, le passage de l'opéra, très très beau, le sentiment de la nature au but de Chaumont et le songe du paysan. Alors ce texte, pourquoi je l'aime particulièrement? Alors nos auditeurs ne peuvent pas le voir, mais j'ai en main une édition du livre de poche. Ce qui veut dire que cette édition date d'avant 1972, puisqu'en 1972, les éditions Gallimard ont créé leur propre collection de poches folio et que Aragon a été publié chez Gallimard. Pourquoi j'aime tellement ce texte? Parce que c'est une promenade poétique. C'est un ouvrage aussi au genre totalement incertain. Et c'est bourré du talent d'Aragon, j'allais dire. Il y a des alexandrins cachés partout. Il y a des collages littéraires qui vont de Baudelaire à Dada. Vous avez mentionné Dada tout à l'heure. Et Aragon a dit vouloir saisir dans ce texte l'étrangeté de la réalité moderne. Une petite lecture. Ils m'ont dit que l'amour est risible. Ils m'ont dit c'est facile. Ils m'ont expliqué le mécanisme de mon cœur. Il paraît. Ils m'ont dit de ne pas croire au miracle. Si les tables tournent, c'est que quelqu'un les pousse du pied. Enfin, on m'a montré un homme qui est amoureux sur commande. Vraiment amoureux. Il s'y trompe. Amoureux, que voulez-vous de mieux? Amoureux, on sait ce que c'est depuis que le monde est monde. Les hommes vivent les yeux fermés au milieu des précipices magiques. Ils manient innocemment des symboles noirs, leurs lèvres ignorantes répètent sans le savoir des incantations terribles, des formules pareilles à des revolvers. Et puis, une petite conclusion très surréaliste, pour finir cette émission très surréaliste. Il est trop tard pour vous, messieurs, car les personnes ont fini leur temps sur la Terre. Poussez à sa limite extrême l'idée de destruction des personnes et dépassez-la.
Et puis ce sont les couples aussi, Aragon et Elsa Triolet, enfin des couples à la fois mythiques et bizarres. Aragon, Triolet, tout à l'heure on parlait de Dali avec Gala, oui. Ce sont des aventures, la présence de Dorama aux côtés de Picasso.
Et Aragon avant Elsa, Aragon avec Nancy Cunard.
Merci Josiane, Le paysan de Paris. Paris. Aux éditions, donc là c'était une version de poche, mais autrement...
Non, il est en folio, il est en folio, il est en pléiade, il est enfin partout, Aragon.
Il est Aragon, que serais-je sans lui, pourrions-nous dire. Merci, la semaine prochaine nous allons parler de musique russe, du piano, les géants du piano, Rachmaninov, Scriabine, leurs interprètes, mais également Prokofiev, enfin tous ceux qui ont marqué cette musique sublime que nous aimons sur Radio Classique. À la semaine prochaine.